Chapitre 9. Le cousin de Bray, à l'exception de ses vieux souvenirs de caserne et de sa connaissance plastique des mœurs du putois, n'avait pas beaucoup d'idées dans la tête. Depuis qu'il avait quitté le régiment, il n'en avait eu qu'une, et encore dut-il y renoncer. Le brave cousin s'était imaginé de doter le pays d'une compagnie de sapeurs-pompiers dont il eût été le commandant. Il avait écrit à ce propos, rapport sur rapport, mémoire sur mémoire, dressé des plans, des statistiques d'incendie, établi d'admirables règlements. Mais il s'était heurté sans cesse à l'obstination du conseil municipal qui refusa de charger la commune déjà obérée d'un surcroît de dépenses. Le capitaine en conçut un vif ressentiment. Et bien que bonapartiste enragé, il se jeta dans l'opposition, opposition, je m'empresse de le dire, qui se restreignait à des noms de Dieu poussés contre les autorités locales. Grâce à sa qualité d'ancien capitaine, il occupait à Vientey une situation en vue. D'abord, il figurait en grand uniforme dans les cortèges officiels, et puis il rendait de nombreux services aux mères de famille, qui avait des fils à l'armée. S'agissait-il d'obtenir un congé, une exemption, une faveur quelconque, c'est au capitaine de Bray qu'on s'adressait. Il indiquait la marche à suivre, rédigeait les suppliques en termes du métier, accablait les bureaux de recrutement et le ministère de la guerre de ses recommandations. Très obligeant, il jouissait donc d'une petite popularité, et il finit par se consoler de n'être pas pompier, en empaillant avec rage et conviction tous les putois et belettes tués dans les taillis d'alentour. Chaque famille possédait au moins un spécimen du talent de notre cousin, et l'on ne pouvait entrer à cette époque dans une maison sans y voir à la place d'honneur un de ces animaux assis sur une planchette de bois, et se livrant à des gesticulations badines généralement empruntées à la mimique des écureuils. Par une tendance vers l'idéal qu'ont généralement les vieux militaires retraités, le cousin corrigeait, dans la zoologie des bêtes carnassiennes, ce que celles-ci ont de trop répugnant et de trop féroce. Il vivait très retiré avec sa domestique Mélanie, une grosse femme de 45 ans, qu'il appelait familièrement « ma poule ». Les intimes relations du maître et de la servante étaient connues de tous. Ils ne s'en cachaient ni l'un ni l'autre, et un jour qu'ils s'étaient disputés tous les deux devant plusieurs personnes, le capitaine avait dit « Crie, crie, ma poule, tu sais bien que l'oreiller raccommode tout !» C'était clair. Aussi, dans la société bourgeoise, on ne pouvait pas le recevoir à cause de la poule, mais on continuait de l'estimer à cause des putois dont il était si facilement prodigue. Après l'incident de la place, ma mère jugea qu'il ne fallait point se faire un ennemi du cousin de Bray. Il était préférable de l'amadouer, de l'inciter discrètement à des pensées, à des actions généreuses, de s'en servir comme d'un moyen inconscient de communication entre l'abbé et nous, et plus tard comme d'un instrument de réconciliation. On revit donc plus souvent le capitaine à la maison. On l'invita même à dîner. Sans trop s'étonner de ce revirement subit et n'ayant point coutume de chercher la raison des choses, il accepta. Alors on le gava de bonne chère et du meilleur vin de la cave. Ce fut une amère déception. Le cousin buvait, mangeait, et il disait « Ah, ce Jules, c'est un nom de Dieu de gaillard !» Le vocabulaire de ses enthousiasmes, la curiosité de ses observations s'arrêtait là. Ce nom de Dieu de gaillard en marquait la hauteur suprême. Il fut impossible d'en tirer autre chose. Donc il y mit de la malice, il était sincère comme une brute, le bon capitaine. Mais il revenait à ce nom de Dieu de gaillard à propos de tout, modifiant le ton de cette exclamation, suivant qu'il éprouvait plus ou moins d'enthousiasme, mais n'en changeant jamais la forme. Ma mère avait beau lui suggérer des idées, lui tracer des réponses. Il n'entendait rien, ne comprenait rien. Il s'obstinait à ce nom de Dieu de gaillard. Alors elle soupirait, demandant à son regard une complicité. Oh, quelle tristesse que les familles divisées! Ce serait si bon d'être réunis et de s'aimer. Et lui, si seul, avec une santé si délicate, on le soignerait si tendrement. Nous sommes aussi de bien petites gens, pour lui qui est si savant, si éloquent. Dame, quand on a son intelligence, quand on a été à Paris, nous autres, nous n'avons que notre cœur. Et sa voix, sa pose, ses gestes semblaient crier « Mais répète-lui ça, imbécile !» À quoi le cousin de Bray, la bouche pleine, l'œil luisant, répondait « Oh, ce Jules, c'est un nom de Dieu de gaillard !» Quelquefois, en causant avec lui, je ne puis m'empêcher de lui dire « Jules, tu es un nom de Dieu de gaillard !» Et quand vous causez avec lui, reprenait ma mère en s'accrochant désespérément aux rares mots autres que les jurons du capitaine, « Que dit-il, se plaint-il, parle-t-il de Paris, de nous ?» Lui, oh, bougre ma cousine, c'est un nom de Dieu de gaillard, allez. Enfin, une fois, il expliqua qu'il était entré dans la bibliothèque. Il ajouta même qu'il avait vu des livres, qu'il les avait palpés, que Jules lui avait montré des ouvrages très rares, très chers. Et il conclut en balançant la tête, « Mes enfants, c'est une nom de Dieu de bibliothèque !» Ainsi, seul de la famille, il était reçu chez l'abbé. Et non seulement il y était reçu, mais voilà qu'il entrait dans la bibliothèque. Dans cette bibliothèque, sur la porte de laquelle étaient écrits ces mots, « Défense d'entrée ». Dans cette bibliothèque où personne jusqu'ici n'avait posé le pied, pas même les servières. Et non seulement il y était entré, mais mon oncle lui avait de ses propres mains montré les livres en insistant sur le prix, sur la rareté. « Et la malle ?» interrogea ma mère consternée. « Avez-vous aussi la malle ?»« Non, » fit le cousin de Bray, qui jusqu'à 10 heures égrena le chapelet de ses jurons. Mes parents ne l'écoutaient plus, songeaient, et le cousin jurait dans le vide en caressant sa moustache grise, plus grise sur sa face que la digestion violaçait. Quand il fut parti, « Tu vois !» s'exclama ma mère, « Tu vois !» Mon père articula en mettant une pause entre chaque syllabe. « C'est extraordinaire ! Qui aurait jamais deviné ?»« Et tu comprends bien, n'est-ce pas, pour que l'abbé ait introduit ce grossier personnage dans la bibliothèque, pour qu'il se soit donné la peine de lui en faire les honneurs, tu comprends qu'il a des vues sur lui. J'en ai peur. Et le cousin héritera de tout. C'est possible, c'est probable même. Parce que, oui, sans ça, l'abbé ne l'aurait pas amené dans la bibliothèque. L'abbé le connaît bien. Parbleu, s'il le connaît. Mais son testament est peut-être fait déjà. Enfin, quelle est sa fortune au juste ? Mon père eut un geste évasif, et s'étant livré à un calcul mental, il répondit « Voilà ce qu'il faudrait savoir. Il a payé les Capucins 12 000 francs, sans les frais d'acte et d'enregistrement. De la succession de ma mère, il a eu 6 000 livres de rente. Maintenant, a-t-il plus, a-t-il moins ? Ce sont ces 6 années à Paris dont on ne connaît rien qui me chiffonnent. Mais qu'est-ce qu'il a fabriqué à Paris? Et la bibliothèque dont tu ne parles pas, et la malle. Oui, mais Paris, Paris, vois-tu, c'est ça qui est l'ennuyeux. Qu'est-ce qu'il a fabriqué à Paris? Il se leva et se promena dans la chambre, les mains dans les poches, préoccupé. Ma mère, distraitement, agitait un trousseau de clés qui, sous ses doigts, rendait un son clair de métal comme un joli son de grelot dans le lointain. Après quelques secondes de silence, mon père dit, ne s'adressant à personne, « Et puis nous sommes là à compter, à quoi cela nous sert-il ?» Ma mère secoua plus fort son trousseau de clés et haussa les épaules. « Un homme qui vit en concubinage, qui n'a pas d'enfant, mais c'est honteux. »« Eh bien oui, conclut mon père, voilà la justice de ce monde, qu'est-ce que tu veux ?» L'heure de me coucher était depuis longtemps passée. Tout à leur réflexion, mes parents m'oubliaient, ne me voyaient pas. Je n'avais garde d'ailleurs d'appeler l'attention sur moi, et je me faisais tout petit au fond de ma chaise, dans le coin d'ombre où j'avais eu la prudence de me cacher. J'étais prodigieusement intéressé non par les calculs de la fortune de l'abbé, qui eût suffi à m'endormir, mais par ce qui se disait du cousin Debray. J'attendais des réflexions sur sa vie, sur la poule surtout, dont il avait été beaucoup question ces jours-là. Car, sous l'empire de ces événements, mes parents se relâchaient devant moi dans la tenue de leur langage et l'austérité de leurs observations. Je rapprochais la poule et le cousin de monsieur et madame Robin. Depuis les confidences de Georges, un monde nouveau m'apparaissait encore indécis. J'éprouvais en tout mon être des sensations inconnues, vertigineuses, qui me donnaient l'effroi et l'attraction des choses défendues, d'un mal abominable et charmant, que je lisais maintenant sans le déchiffrer aux yeux des femmes. Tout cela était brouillé, très incertain, et j'espérais que, par un mot, par une phrase, sur le cousin et la poule, mes parents allaient dissiper les brumes qui couvraient le mystère, désiré et redouté. Mon père remonta la lampe qui charbonnait et vint se rasseoir. Il avait sans doute réfléchi, car, voyant sa femme toujours songeuse et inquiète, il tapa tendrement sur ses genoux. « Allons, mignonne, ne te casse pas la tête, va, et prenons notre parti de ce qui arrive. Dieu merci, nous ne manquons de rien, et j'en serai quitte pour travailler un peu plus vieux, voilà tout. » Et gaiement, il ajouta, en manière de plaisanterie, « Si seulement nous avions une bonne épidémie de temps en temps. » Mais ma mère se révolta. D'une voix dure, accompagnée d'un geste résolu. Non, décida-t-il, il ne sera pas dit qu'on se sera moqué de nous ainsi. Je suis déterminé à me défendre. D'abord, il faut que tu ailles aux Capucins. Moi ? Fit mon père, qui tressauta sur son siège. Moi, mais non ! Mais attends donc, avant de dire non. Ah, oh, mon Dieu ! Que tu es bien de ta famille. Il faut que tu ailles aux Capucins, comprends-moi. Tu verras ton frère, sans t'humilier, sans pleurnicher, sans implorer une réconciliation. Tu lui demanderas de se charger de l'instruction d'Albert. Albert est son filleul, sapristi. Ben, et le curé, interrompit mon père, il se froissera. Oh, le curé, je m'en charge. Une fois le petit dans la place, tu comprends que cela arrange joliment nos affaires. C'est à nous à manœuvrer habilement, sans compter qu'il peut le mener jusqu'à la seconde, une économie de 4 ans de collège du même coup. « Bon, mais il ne me recevra pas, objecta mon père. Qu'en sais-tu? Oh, cela va être des histoires. Mais quelles histoires? Où vois-tu des histoires? Quoi de plus naturel qu'un oncle donnant des leçons à son neveu? D'ailleurs, il s'ennuie, ça le distraira. Et s'il refuse? Eh bien, tu t'en reviendras, et les choses iront comme par le passé. Au moins, nous aurons la conscience tranquille, nous aurons tenté quelque chose. Mon père se grattait la tête afin d'en faire jaillir des répliques triomphantes. Il était à bout d'arguments. Aucune objection ne se présentait plus à son esprit. Très ennuyé, il consentit. « Allons, soit, oh, soupira-t-il avec effort, j'irai un de ces jours. » « Mais pourquoi attendre? Avec une santé comme la sienne, il peut mourir d'un moment à l'autre, et est-ce que l'on sait? Mais non, tu iras demain. » « Bon, allons, soit, j'irai demain. » Le lendemain matin, mon père rôda dans la maison, l'air tout vague. Il cherchait des prétextes pour retarder son départ, s'ingéniait à se trouver tout d'un coup des occupations pressées, des courses urgentes qui eussent éloigné de quelques heures la redoutable entrevue. Jamais il n'oserait proposer à son frère cette idée absurde. Alors que lui dirait-il? Rien, évidemment. Et si j'emmenais Albert, se demandait-il? Il sentait le besoin de n'être pas seul pour affronter le terrible abbé. De m'avoir auprès de lui, il lui semblait que cela lui donnerait plus d'autorité, plus d'assurance. Il pensait aussi que devant moi, Jules se contiendrait davantage. Et il allait ainsi de la cuisine à son cabinet, du cabinet dans le salon, remettant les chaises en place, tâtant ses poches, afin de se rendre compte s'il n'avait rien oublié. Ma mère le poussait à la porte. « Mais va donc, que cherches-tu? Mais de quoi as-tu peur? Ben, si j'emmenais le petit, ce serait peut-être plus convenable. C'est de la folie, allez, va donc, et tâche qu'ils te reçoivent dans la bibliothèque. » L'absence de mon père dura une heure à peine. Quand il revint, il était tout joyeux. Son pas sonnait sur la terre battue de la cour comme un pas de victoire. « Eh bien ?» interrogea ma mère émue et pâle. « C'est fait. Il consent. À partir de demain, Albert peut aller chez lui. »« Non, vois-tu, je le savais bien. » Elle se jeta dans les bras de son mari et l'embrassa. « Avais-je raison, dit. Et comment les choses se sont-elles passées ?» Il fallut raconter l'entrevue. L'abbé avait été très froid, mais convenable. Il se promenait dans son jardin, vêtu d'une espèce de houppelande verte qui n'avait ni la forme d'une soutane, ni la coupe d'un par-dessus. Un vrai fouillis d'herbe que ce jardin, où les allées mêmes disparaissaient. Dès les premiers mots, Jules avait souri d'une manière drôle. Puis, « C'est bon, » avait-il dit, « je le prends, il peut venir. » Après quoi, il avait adressé deux ou trois questions au sujet de son élève, où en était-il, qu'avait-il appris, et reconduisant son frère jusqu'à l'entrée de l'avenue, il s'était expliqué de la sorte. Bon, je tiens à t'avertir que je ne changerai rien à nos relations que je trouve parfaites ainsi. Je ne veux pas vous voir, ni toi, ni ta femme. » Et l'on s'était séparés.
Alors, tu n'as rien vu de la maison, de la bibliothèque?
Oh, rien. Il ne m'a pas prié d'entrer.
Et lui, comment est-il?
Mon père hocha la tête d'un air triste. Oh, il vieillit diablement, le pauvre garçon. Je ne serais pas étonné qu'il eût une maladie de cœur. J'étais bien ému lorsque je m'engageais à mon tour dans l'étroite allée de laurier qui conduisait au Capucin. Et je ne songeais pas à regarder les merles
qui près de moi s'envolaient des touffes de verdure, ni les rouges-gorges agiles qui se glissaient par terre entre les ramilles basses avec des farfouillements de souris. En quittant brusquement une branche de sapin, un jet cria si fort que j'eus peur et que mes livres tombèrent sur le sol. Je les ramassai, et en me relevant, j'aperçus à 20 pas devant moi mon oncle, tout droit, tout noir, dans l'allée. « Ah, te voilà !» me dit-il. « Oui, mon oncle. » Je tremblais, mes jambes sous mon corps se dérobaient, molles et glacées. Il se dirigea vers le perron, au pied duquel s'étalait l'étouffe d'hortensia, et s'assit sur une marche. « Assieds-toi, mon garçon, » dit-il. « Oui, mon oncle. »« Et tu apprends la flûte, à ce que m'a dit ton père ?»«
Oui, mon oncle. »
« Et le latin ?»«
Oui, mon oncle. »«
Qu'est-ce que tu as là sous le bras ?»«
Ce sont mes livres. »
Il les prit, les examina rapidement et les lança dans l'espace, l'un après l'autre. Je les entendis retomber lourdement derrière le petit mur qui entourait la cour. « Sais-tu encore quelque autre chose ?» me demanda-t-il.
« Non, mon oncle. »«
Eh bien, mon garçon, va dans le jardin. Tu trouveras une bêche. Bêche la terre, et quand tu seras fatigué, couche-toi dans l'herbe et va. » Ce fut ma première leçon. « Qu'est-ce que tu dois chercher dans la vie, le bonheur ? Et tu peux l'obtenir qu'en exerçant ton corps. » Ce qui donne la santé, et en te fouant dans la cervelle le moins d'idées possible, car les idées troublent le repos et vous incitent à des actions inutiles, toujours, toujours douloureuses et souvent criminelles. Ne pas sentir ton moi, être une chose insaisissable, fondue dans la nature comme se fond dans la mer une goutte d'eau qui tombe du nuage, tel sera le but de tes efforts. Oh, je t'avertis que c'est point facile d'y attendre, et l'on arrive plus aisément à fabriquer un Jésus-Christ, un Mahomet, un Napoléon qu'un rien. Écoute-moi donc. Tu réduiras tes connaissances du fonctionnement de l'humanité au strict nécessaire. Premièrement, l'homme est une bête méchante et stupide. Deuxièmement, la justice est une infamie. Troisièmement, l'amour est une cochonnerie. Quatrièmement, Dieu est une chimère. Tu aimeras la nature, tu l'adoreras même si cela se te plaît, non pas à la façon des artistes ou des savants qui ont l'audace imbécile de chercher à l'exprimer avec des rythmes ou de l'exprimer avec, expliquer avec des formules, mais tu l'adoreras d'une adoration de brute, comme les dévotes le Dieu qu'elles ne discutent point. Tu te prends la fantaisie orgueilleuse d'en vouloir pénétrer l'indévoable secret, d'en seconde sonder l'insondable mystère, adieu le bonheur. Tu seras la proie sans cesse torturée du doute et de l'inassouvi. Malheureusement, tu vis dans une société sous la menace de lois oppressives, parmi des institutions abominables qui sont le renversement de la nature et de la raison primitive. Cela te crée des obligations multiples, obligations envers le pouvoir, envers la patrie, envers ton semblable, obligations qui toutes engendrent les vices, les crimes, les hontes, les sauvegardes qu'on t'apprend, les sauvageries qu'on t'apprend à respecter sous le nom de vertu et de devoir. Je te conseillerais bien de t'y soustraire, mais il y a le gendarme, les tribunaux, la prison, la guillotine. Le mieux est donc de diminuer le mal, en diminuant le nombre des obligations sociales et particulières, en t'éloignant le plus possible des hommes, en te rapprochant des bêtes, des plantes, des pleurs, en vivant comme elles de la vie splendide qu'elles puissent aux sources mêmes de la nature, c'est-à-dire de la beauté. Et puis, ayant vécu sans les remords qui attristent, sans les passions d'amour ou d'argent qui salissent, Sans les inquiétudes intellectuelles qui tuent, tu mourras sans secousse. Et tout le monde, ignorant ta vie, ignorera ta mort. Tu seras pareil à ces jolis animaux des forêts, dont on ne retrouve jamais la carcasse et qui disparaissent volatilisés dans les choses. Vois-tu, mon garçon, si j'avais connu autrefois ces vérités, je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Car je suis une canaille, un être malfaisant, l'abject esclave de sales passions. Enfin, je te dirai peut-être cela plus tard. Et sais-tu pourquoi? Parce que dès que j'ai pu articuler un son, on m'a bourré le cerveau d'idées absurdes, le cœur de sentiments surhumains. J'avais des organes, et l'on m'a fait comprendre en grec, en latin, en français, qu'il est honteux de s'en servir. On a déformé les fonctions de mon intelligence comme celles de mon corps, et à la place de l'homme naturel, instinctif, gonflé de vie, on a substitué l'artificiel fantoche, la mécanique poupée de civilisation soufflée d'idéal. L'idéal d'où sont nés les banquiers, les prêtres, les escrocs, les débauchés, les assassins et les malheureux. Tiens, tout à l'heure, je te disais que Dieu était une chimère. Eh bien, je ne sais pas, je ne sais rien. Car la conséquence de notre éducation et le résultat de nos études sont de nous apprendre à ne rien savoir et à douter de tout. Il y a peut-être un Dieu, il y en a peut-être plusieurs, même, je ne sais pas. Allez, maintenant, va courir. Non, attends. Ce matin, j'ai encore trouvé un lacet tendu aux merles. Je te défends de chasser les oiseaux. La vie des oiseaux est respectable. Sais-tu ce que tu détruis en eux? Mais tu détruis une musique, un frémissement de la vie, enfin, qui vaut mieux que la tienne. As-tu regardé l'œil des oiseaux? Non, eh bien, regarde-le, et tu ne tueras point. Allez, maintenant, va jouer. Monte aux arbres, rue des pierres, allez, va! C'est par ces tirades d'un anarchisme vague et sentimental que mon oncle me préparait au baccalauréat futur, ambition de mes parents. D'ordinaire, les leçons se bornaient à des courses dans le jardin, à des exercices de toutes sortes, violents et continus. Une fois par semaine, au plus, sous l'acacia boule, l'abbé, coiffé d'un chapeau de paille en forme de cloche, et vêtu de sa houppelande verte qui jaunissait à l'air, m'initiait au secret de sa philosophie, laquelle m'effrayait bien un peu, mais que je ne comprenais pas du tout. Je le voyais rarement. Des jours entiers se passaient sans qu'il se montrât. Il travaillait dans sa bibliothèque, ou bien il s'enfermait dans la mystérieuse chambre avec la malle. Madeleine et moi, nous l'entendions parfois trépigner, crier. Et la servante soupirait. « Allons bon, lève la corde avec la bête. Ben sûr que ça finira mal. » Ces jours-là, Madeleine m'employait à tirer de l'eau du puits, à tasser le bois dans le bûcher. J'en vais bientôt à éplucher ses carottes et à faire une partie de sa grosse besogne. Depuis un an que je suivais les bizarres cours de l'abbé Jules et de Madeleine, j'avais complètement oublié le peu de latin que m'avait enseigné le curé Blanchard. L'orthographe, l'arithmétique, l'histoire de France n'étaient plus que des souvenirs déjà vieux, effacés. Je grandissais en force et en muscles. Comment dit-on « feu » en latin ? Me demandait mon oncle lorsque je rentrais dans la maison, suant, soufflant, tout embaumé de fraîches odeurs d'herbe. « Je sais pas, mon oncle. Très bien, faisait l'abbé en se frottant les mains avec satisfaction. Parfait. Et comment écrirais-tu hasard ?
Je réfléchissais un instant, épelant le mot H-A-A-Z-Z
Z à la bonne heure. Madeleine, Madeleine, donnez une tartine de confiture à Monsieur Albert.
Et de loin en loin, il m'emmenait à la promenade. Souvent, à propos de la moindre chose, d'une plante cueillie dans le fossé de la route, d'un dos de paysan entrevu sous un pommier, d'un mouton, d'un nuage, d'une spire de poussière formée par le vent, il parlait en des théories de vie sociale hachées de réflexions comme celle-ci.
« Bon, je ne sais pas pourquoi je te dis tout cela. Tu ferais peut-être mieux d'être notaire. »
Il était rare qu'il ne nous arrivât point quelque extraordinaire aventure. Nous avions, une après-midi, rencontré une petite mendiante. Elle cheminait près de nous, tendant la main.
« Pauvre petite !» gémit mon oncle tout attendri. « Regarde-la gentiment, cette pauvre petite. Il faut être bon avec les petits et les souffrants. »
Et s'adressant à la pauvresse,
« Viens, pauvre petite, allez, viens jusque chez moi. Je te donnerai de l'argent. Serais-tu contente d'avoir 10 francs ?»
Étonnée, heureuse, la mendiante se mit à nous suivre discrètement. Auprès des capucins, mon oncle se retourna et, voyant la petite guenilleuse qu'il avait oubliée,
« Qu'est-ce que tu veux ? » s'écria-t-il. « Pourquoi nous suis-tu, voleuse ?»
Interdite, ouvrant de grands yeux, elle ne répondit pas.
Mais c'est vous, mon oncle, hasardai-je. C'est vous qui lui avez dit de venir.
Comment, c'est moi ? Tu plaisantes ? Est-ce que je la connais ? Une coureuse de cabaret, de la chair à rouiller. Alors, va-t'en !
Enfin, même que le cousin de Bray, j'entrai dans la bibliothèque. Cet événement considérable arriva un jour de pluie. En m'introduisant dans le sanctuaire redoutable, mon oncle me tint ce discours.
Tu vois, ce sont des livres. Et ces livres contiennent tout le génie humain. Les philosophes, les systèmes, les religions, les sciences, les arts sont là. Eh bien, mon garçon, tout ça, ce sont des mensonges, des sottises ou des crimes. Et rappelle-toi bien ceci, l'émotion naïve qu'une toute petite fleur inspire au cœur des simples vaut mieux que la lourde ivresse et le sot orgueil qu'on puise à ses sources empoisonnées. Et sais-tu pourquoi ? Parce que le cœur simple comprend ce que dit la petite fleur, et que tous les savants, avec tous les philosophes, avec tous les poètes, en ignoreront toujours le premier mot. Les savants, les philosophes, les poètes, mais ils ne servent qu'à salir la nature de leurs découvertes et de leurs mots. Absolument comme si toi, tu allais barbouiller un lys ou une églantine avec ton caca. Attends, attends, mon garçon. Je vais te dégoûter de la lecture, et ça ne sera pas long. »
Il monta sur un escabeau appliqué contre les bas rayons de la bibliothèque. Il prit un livre au hasard.
« L'éthique de Spinoza, voilà ton affaire. »
Étant redescendu, il me remit le volume, non sans avoir tapé sur les plats à plusieurs reprises de la paume de sa main.
« Assieds-toi près de la petite table là-bas et lis à haute voix, à la page que tu voudras. »
Mon oncle s'enfonça dans son fauteuil, croisa ses longues jambes l'une sur l'autre, ses longues jambes maigres et pointues, dont les genoux atteignaient l'axe du menton, et la tête renversée en arrière, le bras droit posé sur l'accoudoir, le gauche pendant, qu'il ordonna « Commence !» D'une voix incertaine, anonnante, je commençai la lecture de l'éthique. Ne comprenant rien à ce que je lisais, je bredouillais, commettais à chaque ligne des fautes grossières. Mon oncle ricana d'abord, peu à peu, il s'impatienta. « Mais fais donc attention, animal, tu n'as donc jamais appris à lire, allez, reprends cette phrase. » Et le voilà qui se passionnait. Il m'interrompait tout d'un coup pour émettre une réflexion, jeter un cri de colère. Le corps en avant, les deux poings crispés sur les bras du fauteuil, les yeux brillants et farouches, tels que je les avais vus à son arrivée à Coulanges, il semblait menacer le livre, la table et moi-même. Et il se levait, tapant du pied, vociférant. « Il trouve que nous n'avons pas assez d'un dieu, il faut qu'il en fourre partout, imbécile !» Lorsque le temps était mauvais au dehors, que le froid ou la pluie me condamnait à chercher un abri à la cuisine, mon oncle m'appelait. Je m'asseyais devant la petite table et je lisais à haute voix. Je lisais depuis l'Ecclésiaste jusqu'à Stuart Mill, depuis Saint-Augustin jusqu'à Auguste Comte. Et chaque fois, mon oncle s'emportait contre les opinions comme jadis contre les hommes, avec les mêmes gestes, avec les mêmes mots. Il traitait les idées ainsi que les personnes vivantes, leur montrait le poing et jetait à leur incorporelle image l'écume de sa fureur dans cette insulte. Imbécile ! Mes parents étaient consternés de la façon dont l'abbé Jules entendait l'instruction. Ils ne goûtaient point à ce système de pédagogie et s'inquiétaient fort de l'avenir qu'il me réservait. Ils ne songèrent point pour cela un seul instant à m'arracher des mains de cet étrange professeur, encore moins à lui adresser la plus légère observation. « J'étais dans la place, » avait dit ma mère. « Je veillais au trésor. Je contrebalançais l'affluence du cousin Debray. Et puis moi aussi, j'entrais dans la bibliothèque. » Ces avantages compensaient cet inconvénient. On verrait plus tard à réparer le mal. Et loin de paraître fâché, il s'acharnait au contraire par des phrases insidieuses qu'il me faisait apprendre et que j'étais chargé de répéter, par une suite de petites attentions délicates et détournées à la conquête de l'abbé. Bien souvent, les clients de mon père nous offraient des cadeaux. C'étaient de belles volailles grasses, des lièvres, des bécasses, des truites. Je les portais aux capucins, les déposais à la cuisine avec discrétion. Mais mon oncle ne me remerciait pas, ne m'en parlait jamais, et les mangeait d'un air satisfait. Même lorsqu'en allant à « mes leçons », entre guillemets, je le rencontrais soit dans l'allée, soit dans la cour, son premier coup d'œil était pour mes mains. « M'apportes-tu quelque chose ?» semblait-il me demander. Ma mère, elle, était vexée de ce silence. Et tout en me remettant un petit panier qui contenait 4 pots de confiture de fraises, dont mon oncle était très friand, « Oh, c'est égal, » bougonnait-elle, « il pourrait remercier l'impoli. » Mais l'abbé n'avait garde d'y songer. C'est en fait une dédaigneuse loi de ne jamais prononcer le nom de mes parents. Aux délicates allusions des phrases que je devais lui offrir en même temps que les bécasses et les confitures, il répondait en sifflotant un air. Aucune des mises en scène préparées par ma famille ne réussissait. Mais pardon, mon oncle, si j'arrive en retard. « C'est que petite mère est bien malade, » disais-je, ne pouvant m'empêcher de rougir. Alors il pirouettait sur ses talons et s'éloignait les mains derrière le dos. Il semblait que mes parents n'existaient pas pour lui. Il ne leur accordait même plus l'outrageant honneur d'un imbécile. Malgré les privautés exceptionnelles dont on continuait de jouir aux Capucins, cette obstinée réserve ne laissa pas à la fin d'inquiéter grandement ma mère. Elle y vit non plus de la haine, elle y vit quelque chose de pire, de l'ironie. Et cette ironie silencieuse d'aujourd'hui l'effraya davantage que la haine tonnante d'autrefois, car il devinait l'implacable froideur d'un calcul mêlé au désir d'une mystification d'outre-tombe. Après le dîner, en attendant la venue des Robins, elle demeurait longtemps méditative, en proie à des réflexions pénibles qui mettaient la crispation d'une souffrance sur son visage plus pâle, son visage de bourgeoise tragique. Sans doute des combats se livraient au fond de son âme, entre son amour maternel et sa cupidité de femme. Des remords aussi, nés de l'incertitude, l'assiégeaient, rompant d'une légère secousse la raide immobilité de son corps. Je l'entendis un jour, qui demanda d'une voix basse à mon père en train de faire reluire tristement un bistouri, « Le crois-tu si malade ?»« Ben, je l'ai point ausculté, mignonne, répondit-il. » Et s'adressant à moi, il interrogea, « As-tu remarqué que les jambes de ton oncle enflaient ?»« Oh non, papa. »« Oh, ça fait rien, reprit-il. »« Pour moi, il a une maladie du cœur, peut-être du foie. » Mais heureusement, je peux me tromper dans mon diagnostic. » Il approcha de ses lèvres la lame de l'instrument qui se ternit à son haleine. « Je peux me tromper, » répéta-t-il, hochant la tête. Avec la peau d'un vieux gant, il astiqua l'acier délicatement, l'essuya. « Alors, tu crois qu'il pourrait aller comme ça des mois, des années ?» Oh, mon Dieu, il peut aller longtemps. Oh, il peut mourir aussi d'un moment à l'autre. Ça dépend. » Ayant planté le bistouri dans le rayonnement de la lampe, il le fit tourner entre ses doigts, en examinant les surfaces polies qui miroitaient, et il répéta, « Oh, ça dépend. » Puis il le glissa dans la gaine de la trousse, tandis que ma mère, les yeux très vagues, un pli dur au front, murmurait, Et si nous avions inutilement sacrifié l'éducation d'Albert ? Madame, ne te l'ai-je pas assez dit ? Eh bien, il faut l'envoyer au collège. » Elle réfléchit quelques minutes. Attendons encore, fit-elle. Mon père déploya son journal, se cala fortement au fond de son siège. Attendons, fit-il. Un silence descendit sur nous, atroce, pesant comme un couvercle de sépulcre. De l'ombre qui planait au plafond, qui frissonnait au mur, semblait tomber l'épouvante du meurtre. Mon oncle était réellement malade, déclinait chaque jour un peu plus. Il avait des battements de cœur, des étouffements qui le forçaient à rester des nuits entières à la fenêtre ouverte de sa chambre, les flancs haletants, la gorge étranglée. Pour éloigner de sa pensée l'image de la mort, il ne voulait point consulter un médecin, ni rien changer à son régime, à ses habitudes. Il allait, venait, travaillait dans sa bibliothèque, s'enfermait plus fréquemment dans la chambre avec la malle. Ses yeux gardaient leur éclat étrange, et son corps, bosselé d'exostose par un amaigrissement continu, se cassait en deux. La seule concession qu'il fit de la maladie, ce fut de ne célébrer sa messe qu'une fois par semaine, le dimanche. Et encore, plusieurs dimanches, l'attendit-on vêtement, les cloches sonnèrent et l'abbé ne parut point. Le curé Blanchard s'émut, jugeant que la maladie n'était qu'un prétexte, puisqu'il n'avait point abandonné ses promenades quotidiennes. Il s'en expliqua avec lui. « Ben, je fais ce qui me plaît, » déclara mon oncle. « Si je suis assez malade pour ne pas dire ma messe, si je ne le suis pas assez pour me promener, c'est un phénomène pathologique qui ne regarde que moi. Occupez-vous de vos vicaires. »
Le curé prit un air de foudroyante autorité. « Monsieur l'abbé, si je vous ai laissé tranquille jusqu'ici, c'est que vous appartenez à l'une des meilleures familles du pays, une famille pieuse que j'aime, que j'estime et que je vénère.
« Eh bien, c'est cela !» interrompit l'abbé. « Vénérez-la, tout à votre aise. Jouez-lui de la flûte. C'est une brave famille. Vous êtes un brave homme. Je suis une canaille, c'est entendu. Pourtant, je possède 3 000 francs de rente, une petite maison, un grand jardin. Je suis brouillé avec ma famille, je n'ai pas d'héritier qui m'intéresse. »
Il tapa sur l'épaule du curé.
« Et si je vous donnais tout cela par testament, hein? Qu'en dites-vous ? »
Regardant l'abbé avec des yeux troubles où passait la lueur d'une convoitise, le curé Blanchard balbutia.
« Bon, monsieur l'abbé, oh, cher monsieur l'abbé, je ne mérite pas, mais vous savez que je suis malade, j'en ai pas pour longtemps. « Oh, protesta le curé, Dieu ne voudra pas, mais en vérité, je... »
Un imbécile goguenard et sifflant lui coupa la parole. Et il se sentit poussé vers la porte par Jules, qui disait dans un ricanement,
« Allez-vous-en, vous aviez cru, allez-vous-en !»
Cette anecdote amusa beaucoup le cousin de Bray, qui s'imaginait avoir lu Voltaire jadis et qui trouva que Jules était plus que jamais un nom de Dieu de gaillard. Souvent, il venait au Capucin, braillant, crachant, sacrant, cherchant dans la cour et sous l'herbe des allées des piquets de putois, des traces de belettes. Pour flatter l'amour-propre de mon oncle, le capitaine s'extasiait sur tout, vantait avec une concision et une délicatesse militaire les arbres de la propriété, les murs, la bonté du sol, la grâce de la girouette, la hauteur des plafonds. Et il s'écriait chaque fois en désignant la prairie et le cirque d'arbres qui l'entourait.
« Oh, tout de même, t'as une nom de Dieu de vue. C'est d'un nom de Dieu de calme ici, bourre. On serait rudement à son aise ici pour empailler les putois. »
Plus rarement, l'abbé recevait la visite des servières. Auprès de la jolie madame servière, ses angles s'arrondissaient. Sa conversation prenait un tour enjoué, un charme de galanterie spirituelle qui étonnait chez un homme aussi extravagant et bourru, dont les actions et les paroles allaient sans cesse de l'excessif enthousiasme à l'excessive fureur. Mais ses yeux démentaient le calme apparent de ses manières, des yeux étrangement lubriques lorsqu'il se posait sur la nuque de la jeune femme, sur son corsage aux courbes souples et vivantes, sur les plis de sa robe qu'il semblait soulever, fouiller, déchirer avec la brutalité de mains violatrices. Et ses narines s'ouvraient, frémissantes, à la sensualité des odeurs qui s'évaporaient d'elle et montaient dans l'air chargé d'amour. Madame Servière s'en amusait, heureuse au fond de cet hommage qui la déshabillait, qui la livrait à l'imagination obscène d'un faune en soutane noire. Je revois dans ces détails les plus menus, les plus insignifiants, je revois la terrible scène qui suivit l'une de ses visites. Mon oncle est assis sous l'acacia boule, le dos appuyé contre le tronc, les jambes dans l'herbe. Il est surexcité, un peu haletant, très sombre, comme à l'approche d'une crise. Et cependant, sa tête pend et roule sur sa poitrine comme une boule trop pesante.
La sueur dégoutte de son visage. Il arrache des brins de chien-dent qu'il mâchonne et rejette ensuite. Moi, non loin de lui, je rue des pierres, essayant d'atteindre le mur qui sépare la prairie du jardin. Tout à l'heure, Madame Servière était là, toute blanche, dans la verdure, une robe blanche à reflets doux, un chapeau couvert de dentelles blanches qui frissonnait, une ombrelle blanche, et ses bras, au travers de la mince étoffe blanche, étaient roses. Elle a trempé ses lèvres dans un verre de vin de Malaga, grignoté un gâteau. Monsieur Servière lui a fumé une cigarette et parlé d'élection. Mon oncle a été charmant. Il a dit des choses exquises qui faisaient une singulière mine dans sa bouche. Cueillant un coquelicot double dont les pétales fanés et pareils à de la soie retombaient les uns sur les autres en un joli chiffonnage, il l'a offert à Madame Servière. « Oh, regardez cette fleur, c'est délicieux !» N'est-ce pas qu'elle ressemble à une petite robe Louis XV ? Toute l'émotion, toute la tendresse, oh, toute la grâce, tout l'esprit d'une mode, d'une époque, tout cela vient de cette petite fleur dont une femme un jour en passant aura envié la parure. Les cathédrales gothiques sont nées du regard d'amour qu'un homme en cheminant a jeté sur les grandes allées de nos forêts. Je me demande pourquoi les danseuses n'étudient pas le mouvement des bêtes, le vol des oiseaux, le balancement des branches. « Vous avez donc vu des danseuses ?» interroge en riant Madame Servière. « Bon, j'en ai vu, répond mon oncle, elles dansent très mal. » Et les servières sont parties. Et mon oncle est sous l'acacia boule, et je continue de ruer les pierres. Des oiseaux passent, des oiseaux chantent. « Albert !» C'est mon oncle qui m'appelle. Sans doute il veut me donner une leçon. Je prévois un cours de morale anarchique sur Dieu, sur la vertu, sur la justice. « Aide-moi !» Son regard m'effraie. Je ne sais pourquoi je pense que les assassins doivent regarder ainsi quand ils tuent. « Aide-moi donc !» Il s'empare de ma main, s'appuie sur mon épaule et péniblement se relève. Oh, d'un poirier voisin, un bouvreuil s'égosille. « Quel âge as-tu ? » me demande mon oncle. « 13 ans. »« 13 ans ? Oh, c'est bien, allons !» Et sans dire un mot, nous nous dirigeons vers la bibliothèque. Je m'installe à ma place ordinaire devant la petite table où j'ai lu toute la philosophie à 13 ans. Avec des gestes précipités, impatients, mon oncle furette derrière une rangée de grands livres. Il cherche peut-être un philosophe que je ne connais pas encore. Et j'éprouve à être là une peur vague. Le dos de mon oncle a je ne sais quoi d'inaccoutumé qui m'impressionne. Ses mains véritablement m'inquiètent. Elles viennent, disparaissent, reviennent, poussées par des hâtes mauvaises. Enfin, il a trouvé. C'est un volume plus petit que les autres, dont la couverture est rouge, sale, déchirée, dont les feuilles décousues ne tiennent plus. On voit qu'il a beaucoup servi. Mon oncle tourne les pages vite, vite, s'arrêtant une seconde, puis se remettant à les tourner, plus vite, plus vite. Cela fait un sifflement que couvrirait le bruit d'un mince filet d'eau tombant sur des cailloux. « Ah, voilà, c'est cela !» Et lissant de sa main étendue la page où il s'est arrêté, il s'approche, dépose sur la table le livre grand ouvert, marque d'un trait d'ongle l'endroit qu'il faut lire. Lentement, tu liras lentement. Quand je te dirai, tu commenceras. »
Pendant qu'il s'assied dans son fauteuil, les jambes en avant, toutes droites et raides, je regarde le titre du volume et je vois « Indiana » par George Sand. George Sand. Alors, je me souviens que mon père parle souvent de George Sand. Il l'a vu au théâtre. C'est une méchante femme qui s'habille toujours en homme et qui fume la pipe. George Sand. Je cherche à retrouver des particularités d'elle dans les récits de mon père. Mais ma mère interrompt sans cesse l'anecdote qui commence. Ce nom seul la scandalise, et scandalise aussi Madame Robin. Évidemment, Indiana est ce que dans ma famille on appelle un roman, c'est-à-dire quelque chose de défendu, d'épouvantable. Et je considère le volume étalé devant moi avec une curiosité mêlée de terreur. « Va, dit mon oncle, lentement surtout. » Je jette un coup d'œil sur lui. Il a fermé les yeux, ses bras pendent hors des accoudoirs, sa poitrine s'affaisse et se gonfle comme un soufflet. Je commence. Noon était suffoquée de larmes. Elle avait arraché les fleurs de son front. Ses longs cheveux tombaient épars sur des épaules larges et éblouissantes. Si Madame Delmar n'eût pu pour l'embellir son esclavage et ses souffrances, Noon l'eût infiniment surpassée en beauté dans cet instant. Elle était splendide de douleur et d'amour. « Moins vite, dit mon oncle très bas, et ne te rebute pas ainsi sur ta chaise. » Raymond, vaincu, l'attira dans ses bras, la fit asseoir près de lui sur le sofa et approcha le guéridon chargé de carafes pour lui verser quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger dans une coupe de vermeil. Soulagé de cette marque d'intérêt, plus que du breuvage calmant, Noon essuya ses pleurs et se jetant aux pieds de Raymond, aime-moi donc encore, lui dit-elle en embrassant ses genoux avec passion. Dis-moi encore que tu m'aimes et je serai guéri, je serai sauvé. Embrasse-moi comme autrefois et je ne regretterai plus de m'être perdu pour te donner quelques jours de plaisir.
Arrête, dit mon oncle d'une voix basse et sourde, pareil à un râle d'enfant. Arrête!
Je subis d'étranges sensations et j'ai comme une lourdeur à la tête. Ces mots, l'amour, le plaisir, le sofa, la coupe de vermeil, Raymond, Noon, ses baisers, ses épaules éblouissantes, tout cela me trouble. Il me semble que les lettres du volume revêtent des formes inquiétantes, des images de choses connues, de choses rêvées, de choses devinées, qu'elles s'agitent et grimacent. Le mouvement de mon cœur s'accélère, mes tempes battent, un feu nouveau circule dans mes veines. J'entends mon oncle, dont la respiration s'enrauque, s'exhale en soupirs entrecoupés. Pourquoi ? Je me hasarde à l'examiner de coin. Ses yeux sont clos, toujours, toujours ses bras pendent, et son corps est secoué de temps en temps d'un frisson nerveux. Dort-il ? J'ai peur. Je voudrais m'enfuir. Continue ! Et je reprends la lecture d'une voix qui tremble. Elle l'entourait de ses bras frais et bruns, elle le couvrait de ses longs cheveux, ses grands yeux noirs lui jetaient une langueur brûlante, et cette ardeur du sang,
Cette volupté tout orientale qui sait triompher de tous les efforts de la volonté, de toutes les délicatesses de la pensée. Raymond oublia tout, et ses résolutions et son nouvel amour et le lieu où il était. Il rendit à Noun ses caresses délirantes. Il trempa ses lèvres dans la même coupe, et les 20 capiteux qui se trouvaient sous leurs mains achevèrent d'égarer leur raison. Il me semble que mon oncle a parlé. Je m'arrête. D'ailleurs, j'ai besoin de reprendre haleine. Ma gorge se serre, mes cheveux tout moites se collent à mon crâne. Je ressens une douleur aiguë au bas de la nuque. Va, mais va donc ! Faisant un effort sur moi-même, tâchant de retenir ma raison qui s'ébranle, de rassembler mes idées qui s'égarent, je continue. Les deux panneaux de glace qui se renvoyaient l'un l'autre l'image de Noun jusqu'à l'infini semblaient se peupler de 1000 fantômes. Oh, je les vois, ces fantômes. Ils passent, s'évanouissent, reparaissent, incomplets, prodigieux, avec des chevelures pendantes, des gorges renversées, des gestes qui enlacent. Et je lis, je lis. Les lignes se dérobent sous mes yeux, elles sortent du livre, glissent de la table, bondissent, remplissent la pièce tout autour de moi. Je lis toujours. Étourdi, haletant, je reconnais parmi ces hallucinantes images, je reconnais les Robins, la poule, le cousin de Bray, Madame Servière, qui étaient des nudités infâmes, multiplie des postures ignorées. Tous mes souvenirs prennent un corps et viennent s'ajouter à cette infernale ronde. Et je lis. C'était elle qui l'appelait et qui lui souriait derrière ses blancs rideaux de mousseline. Ce fut elle encore qu'il rêva sur cette couche, lorsque, succombant sous l'amour et le vin, il entraîna sa créole échevelée. Oh, brusquement, je me suis tue. Sous un afflux de sang, mes yeux sont aveuglés, mes oreilles bourdonnent, mon cœur défaille, noyé dans un flot soudain de puberté. Je ne distingue rien, je n'entends plus rien. Je voudrais crier, appeler, car je crois que je vais mourir. Cependant, le silence de la bibliothèque m'étonne. Je ne perçois même plus la respiration de mon oncle et je n'ose le regarder. Une minute, une lente minute s'écoule. Pas un souffle n'arrive, pas le plus léger craquement du fauteuil où il est étendu. Mais que fait-il ? Très bas, je l'appelle. Mon oncle ! Il ne me répond pas. Mon oncle! Il n'a pas remué. J'écoute, il n'a pas respiré. Alors un affreux soupçon me traverse l'esprit. Je me souviens de ce qu'a dit mon père l'autre soir en nettoyant son bistouri. Il peut mourir d'un instant à l'autre. Mon oncle! Cette fois, j'ai crié de toutes mes forces et perdu. Rien. Je me lève, frissonnant, claquant des dents. Il est là, étendu, presque couché, dans la pose qu'il avait tout à l'heure. Mais sa figure est très pâle. Cette question de mon père me revient encore à la mémoire. « As-tu remarqué que ses jambes enflaient ?»« Oui, elles me paraissent énormes. »« Et il ne bouge pas. » Une mouche circule sur son front, court sur ses paupières, descend le long du nez, remonte. Il ne bouge pas. Je saisis sa main, elle est froide. Une écume blanche borde ses lèvres refermées. Mon oncle, mon oncle! Mais voici que ses doigts s'agitent. À travers l'écume qu'un souffle d'air soulève, ses lèvres faiblement laissent échapper une plainte, puis une autre encore. Peu à peu, les muscles de la face raidis se détendent. Sa mâchoire aussi les craque, sa poitrine se gonfle, respire, ses yeux s'entr'ouvrent, et de la bouche qui cherche toute grande à se remplir de vie, sortent un long soupir, un long gémissement. Mon oncle, ce n'est plus le cri de détresse, c'est le cri de joie. Il est vivant. Mon oncle a posé ses yeux sur moi, des yeux dont le regard semble revenir de l'abîme de l'enfer. Il ne sait pas encore où il est. Il ne sait pas encore qui je suis. Et ce regard se ranime, s'étonne. Sans cesse, il va de moi à la petite table où le livre est resté. Il cherche, il interroge. Il s'humilie, il implore. En une minute, il traduit toutes les sensations que lui apporte la pensée revenue, la mémoire retrouvée. « Albert, c'est toi ?»« Oui, mon oncle, c'est moi. » Et avec une expression douloureuse, avec une pitié d'une infinie tristesse que jamais je ne pourrais oublier, mon oncle balbutie. « Pauvre petit, va-t'en, petit, pauvre petit. Ah non, mon oncle, vous êtes malade, je vous soignerai. Va-t'en, mon pauvre enfant, c'est passé, va-t'en, je le veux. » Le lendemain, je trouvais mon oncle dans la cour, assis devant un fagot qui flambait. Près de lui était une pile de livres. Il les prenait un à un, les déchirait, et les jetait dans le brasier. « Tu vois, me dit-il, je les brûle. » Il mit sa main sur sa poitrine et il ajouta avec un air de profond dégoût. « Mais c'est cet affreux livre qu'il faudrait détruire, cet affreux livre de mon cœur. » Je regardais la fumée qui montait dans l'air en spirale bleuâtre, s'évanouissait, et je suivais les petits morceaux de papier brûlé qui voletaient chassés par le vent comme des feuilles mortes.